Je vous invite à présent à suivre la conférence de presse des Nations Unies animée par M. Charles-Antoine Bambara, porte-parole AI de la MONUSCO.
Bonjour et merci d'être en direct de la salle Alpha de la MONUSCO pour cette conférence de presse des Nations Unies. Nous passerons en revue, comme d'habitude, l'actualité de la MONUSCO, les activités de l'équipe pays avec Geneviève Delounois pour le volet développement. Le colonel Félix Prosper Basse nous présentera le tableau militaire de la semaine en RDC vu par la MONUSCO. Et puis nous aurons comme invité M. Scott Campbell, directeur du bureau conjoint des Nations Unies chargé des droits de l'homme. Il nous fera donc le point de la situation humanitaire pour le mois d'août. Voilà donc pour les titres donc de cette conférence de presse que nous commençons tout de suite avec cette information de la section information publique de la MONUSCO. Dans le cadre de la Journée internationale de la paix, célébrée dimanche dernier 21 septembre, la Fondation Peace One Day, avec le soutien de la MONUSCO et le gouvernement de la RDC, a organisé donc un grand concert à Goma avec la participation de l'artiste musicien américain Akon et de quelques musiciens congolais de Goma. Cet événement unique en son genre a connu la participation de nombreux spectateurs des autorités locales nationales et internationales. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, à cette occasion, ainsi que le représentant spécial secrétaire général Martin Kobler et le fondateur de Peace One Day ont fait passer donc des messages de paix à cette occasion et ont rappelé donc que cette journée était pour consolider la paix dans l'est de la RDC. Ce concert était diffusé en direct sur Radio Okapi ainsi que sur la télévision nationale, la RTNC. À Kinshasa, 62 jeunes venus des écoles et universités ont pris part le vendredi 19 septembre à une vidéoconférence en direct de New York avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Les jeunes Congolais ont tout d'abord exprimé leur reconnaissance pour leur participation à ce forum. Ils ont rappelé les différents affres dont sont victimes les enfants congolais suite au conflit armé. Ils ont dit oui au retour de la paix en RDC. Et enfin, ils ont salué le travail de la MONUSCO aux côtés du gouvernement de la RDC. Une marche a été organisée à Kinshasa, à laquelle ont pris part donc les agents de la MONUSCO avec les membres du cadre de concertation de la société civile du Congo. Environ 200 personnes ont pris part à cette marche qui était accompagnée par la fanfare. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Maître Tunda, représentant du gouvernement, a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Il a à cette occasion fait savoir que la paix était quelque chose qui se construit pas à pas avec le concours de tous. Cette cérémonie à Kinshasa s'est achevée par la plantation d'un arbre pour la paix. Il s'agit notamment du palmier Borassus, communément appelé Malebo, à cause de sa longévité et de sa forte résistance à la sécheresse. Des pigeons ont été lâchés par la suite comme symbole de la paix. Ainsi, le gouvernement de la RDC, par cet acte, a rebaptisé la place des évolués sous le nom de place de la paix. La cérémonie était animée par la chorale de la MONUSCO. Section protection de l'enfance. Pendant la semaine écoulée, la section protection de l'enfance de la MONUSCO a documenté 13 cas d'enfants qui ont été victimes directes de violences liées au conflit. 9 garçons se sont échappés des groupes armés. 2 garçons ont été détenus pour association présumée avec des groupes armés et ont été libérés par la FRDC. Et un enfant a été tué, une fille violée. Dans le territoire de Chabunda, la MONUSCO est préoccupée par le nombre croissant d'écoles utilisées à des fins militaires et le pillage de centres de santé. 4 centres de santé ont été attaqués et pillés par des parties en conflit. 3 cas ont été attribués au FRDC et 1 cas au groupe armé NDC Tcheka. En plus, 4 écoles ont été utilisées à des fins militaires par le groupe armé Raia Mutomboki. Cette situation a empêché au moins 225 élèves de reprendre les chemins de l'école. 2 écoles primaires qui étaient utilisées depuis le 29 juin dernier dans le sud Kivu comme point de rassemblement des FDLR démobilisés ont été évacuées le 15 septembre suite au plaidoyer des partenaires de la protection de l'enfance. Dans le territoire de Beni, l'opération sauvetage se poursuit. Jusqu'au 23 septembre dernier, 50 enfants ont été sauvés et reçoivent des soins et une assistance appropriée. Police de la MONUSCO à présent, le réseau pour la réforme du secteur de la sécurité et de justice en collaboration avec la mission EUPOL RDC et la police de la MONUSCO à travers le comité de suivi de la réforme de la police a organisé la semaine dernière un atelier d'information de la société civile sur la police de proximité. Cette activité avait pour objectif de dispenser aux professionnels des médias, aux partenaires internationaux et aux parties prenantes impliquées dans les expérimentations de la police de proximité l'information sur la mise en œuvre de la réforme de la police à travers l'expérimentation du projet du commissariat de référence de Kinshasa-Korikine en particulier. Soutenu par la police de la MONUSCO, cette activité marque non seulement la fin du volet d'appui de la mission EUPOL RDC Congo et à la société civile pour le rapprochement police, population de la commune de Kinshasa dans le cadre du projet Korikine, mais aussi le départ de la mission EUPOL de la RDC. Secteur de Kisangani de la police de la MONUSCO, qui a mené donc une action d'une grande portée humanitaire. En effet, 6 enfants âgés de 3 à 5 ans avaient été retrouvés abandonnés par leurs parents lors d'une opération de ratissage par les FRDC dans la forêt de Bangou, dans le territoire de Bondo. Récupérés par UNPOL Kisangani, ils ont été confiés au centre de sauvegarde Saint-Laurent. UNPOL, en synergie avec le CICR et les autorités locales, ont mené inlassablement des recherches qui ont abouti à la découverte de leurs parents en République centrafricaine, où ils ont été conduits le 12 septembre dernier. Par ailleurs, la police de la MONUSCO vient de procéder à la publication d'un numéro Flash UN Police entièrement consacré à une meilleure connaissance des services de l'inspection générale de la police nationale congolaise. L'objectif visé est de s'approprier ce document afin de promouvoir au maximum cette structure récente de la police nationale congolaise PNC qui peut utilement contribuer à améliorer l'image de la PNC aux yeux de la population et réduire les exactions éventuelles commises par les policiers, apporter une réponse aux victimes ainsi qu'une aide aux commandants des unités de la PNC. Afin de rendre plus efficace cette méthode d'information, les policiers des Nations Unies sur le terrain communiquent sur cette structure lors de leur rencontre avec les responsables territoriaux en les incitant à sensibiliser la population à travers les affiches, les dépliants de l'inspection générale de la police PNC donc, et évoquent ce sujet lors de leur réunion avec les comités de sécurité. Voilà tout pour les informations des composants de la MONUSCO. Nous passons tout de suite la parole donc à Scott Campbell, directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme ici en RDC. Il va nous faire le point de la situation humanitaire en RDC, de la situation des droits de l'homme en RDC au cours de ce mois d'août 2014. Bonjour Monsieur Scott Campbell.
Bonjour.
Quel est le tableau général de la situation des droits de l'homme en RDC?
Voilà. Non, je vous donnerai les principales tendances de violation des droits de l'homme en laissant les questions humanitaires à notre collègue à votre gauche. Et je vous donne un aperçu sur le mois d'août qui vient de passer. Au cours de ce mois, notre bureau a enregistré 257 violations de droits de l'homme sur le territoire de la RDC, ce qui représente une augmentation par rapport au mois de juillet, au cours duquel notre bureau avait enregistré 171 violations de droits de l'homme. Le nombre de victimes qui ont résulté de ces violations a connu aussi une hausse considérable au cours du mois d'août, passant de 405 victimes à 638 victimes, soit une hausse d'environ 58%. Je noterai entre parenthèses que le mois de juillet, le nombre total de violations était relativement bas. Sur le plan de la répartition géographique, les provinces les plus touchées restent les provinces de l'Est de la RDC, à savoir les provinces orientales du Nord Kivu et de Sud Kivu. Ces trois provinces ont connu une hausse du nombre de violations des droits de l'homme par rapport au mois de juillet. Notamment, pour ces trois provinces, le nombre de victimes de violations des droits de l'homme reste très élevé, soit 535 victimes, ce qui représente environ 84% du nombre total de victimes enregistrées par notre bureau dans tout le territoire de la RDC. En ce qui concerne l'ouest du pays, notre bureau a enregistré une légère hausse du nombre de violations des droits de l'homme par rapport au mois passé, passant de 44 à 51 violations. Donc, c'est-à-dire en termes globaux, vous avez 84% des violations qui sont commises à l'est du pays et 16% à l'ouest. En ce qui concerne la responsabilité, l'ensemble des agents étatiques auraient été responsables de 57% du nombre total de violations des droits de l'homme. Le nombre de violations des droits de l'homme et de victimes de ces violations commises par les agents étatiques ont connu de légères hausses par rapport au mois de juillet aussi. Parmi les agents étatiques, il y a lieu de noter que les militaires des FRDC et les agents de la PNC qui auraient été responsables respectivement d'environ 28% lorsqu'il s'agit de la FRDC et de 25% lorsqu'il s'agit de la police nationale congolaise. Par contre, les combattants des groupes armés seraient responsables d'environ l'autre 43% des cas de violation de droits de l'homme que notre bureau a pu enregistrer pendant le mois passé. Je soulignerai que lorsque nous voyons le nombre de victimes de ces cas de violation, les statistiques sont presque exactement à l'inverse, c'est-à-dire que les groupes armés, tous confondus, sont responsables pour à peu près 57% des victimes de violation de droits de l'homme, étant donné qu'un cas de violation de droits de l'homme pourrait plusieurs victimes. Merci beaucoup. Donc, parmi les groupes armés, c'est les combattants Mai Mai, tous confondus, seraient responsables du nombre le plus élevé de violations commises durant le mois d'août, et ensuite les combattants du Front de résistance patriotique d'Ituri, la FRPI, seraient aussi responsables là pour 123 victimes de violations de droits de l'homme. Et ces chiffres aussi représentent une nette hausse en ce qui par rapport au mois passé. Juste pour vous donner un petit aperçu sur la nature de ces violations, violences sexuelles, nous avons enregistré 50 cas de violences sexuelles dans 12 filles, 38 femmes, 12 filles, qui représentent une hausse aussi par rapport au mois passé. Les trois quarts de ces victimes étaient au Nord Kivu. Et contrairement au mois précédent, le mois d'août, sur les 50 cas, les groupes armés étaient responsables pour 42 sur les 50 cas que notre bureau a pu constater. Donc, c'est-à-dire les agents étatiques, l'armée et la police, étaient responsables que pour 8 cas sur les 50 que nous avons pu documenter, sachant que nos chiffres sont très conservateurs et on ne vous donne que les chiffres qui reflètent les cas que nous-mêmes nous avons pu confirmer sur le terrain. Nous avons noté également un nombre constant de décès en détention au cours du mois passé. Un nombre constant relativement au mois de juillet. Le mois passé, c'était 10 cas de décès en détention, chose qui nous préoccupe énormément. Les cas étaient éparpillés à travers le territoire national. Donc, 3 cas au Bas-Congo, 2 cas au Bandundu, 2 cas au Nord-Kivu, Sud-Kivu, 1 cas oriental, 1 cas équateur, 1 cas, etc. Et nous notons avec préoccupation que la plupart de ces décès sont causés par un manque de soins appropriés pour les détenus, ainsi que de mauvaises conditions de détention. Pendant le mois d'août, notre bureau a relevé 7 cas d'atteinte aux droits des défenseurs de droits de l'homme, 31 journalistes et d'un opposant politique dans le pays, ce qui représente également une augmentation par rapport au mois de juillet. Et finalement, sur la question de lutte contre l'impunité, face à toutes ces violations, l'appareil judiciaire était actif au cours du mois d'août. Selon les informations mises à la disposition de notre bureau, au moins 3 agents de la police nationale, 7 militaires de l'armée nationale et un ancien chef de mouvement rebelle Parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo ont été condamnés pour les actes constituant des violations des droits de l'homme dans les provinces du Bas-Congo et oriental. Je vous remercie.
Voilà, merci donc à Scott Campbell. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme et que là, vous nous présentiez les principales tendances des violations des droits de l'homme donc pour ce mois d'août 2014. La place est à présent à Geneviève Delenoy. Geneviève, bonjour.
Bonjour Charles.
À vous donc le micro pour nous présenter le panorama des activités menées par les agences de développement du système des Nations Unies en RDC. Et nous commençons par
l'UNICEF. Merci Charles. Comment accroître les ressources pour donner de meilleures opportunités aux enfants congolais? C'est le thème de l'atelier d'information qui sera organisé demain, 25 septembre, à Kinshasa, par l'UNICEF, en collaboration avec la vice-primature, ministère du budget de la RDC. Ceci afin de sensibiliser les populations sur les dépenses publiques et sur l'importance de la prise en compte de la dimension enfant dans les questions budgétaires. Le financement public en faveur des secteurs sociaux en RDC est en train d'augmenter. C'est ainsi qu'en 2013, 6,1% du budget était exécuté pour la santé, comparé à 4,3% en 2011. Pour l'éducation, 14,8% du budget a été exécuté en 2013, comparé à 12,3% en 2011. Les allocations budgétaires en faveur de l'éducation et de la santé demeurent relativement faibles toutefois, mais il existe un potentiel important pour mobiliser davantage de ressources. Les enfants et les femmes de la RDC doivent avoir accès à un système sanitaire de qualité, à un système éducatif de qualité, doivent avoir accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. C'est ce qu'a rappelé Madame Barbara Bentain, représentante de l'UNICEF en RDC. Ces droits fondamentaux ne sauraient être réalisés sans que les bonnes décisions budgétaires ne soient prises et les ressources allouées et exécutées de manière équitable. Cette session d'information est la première d'une série de 3 sessions sur la mobilisation des ressources ou comment accroître les ressources, l'allocation et la distribution des ressources ou comment améliorer la distribution des ressources et l'exécution des ressources, comment améliorer la qualité des dépenses. L'UNICEF, vous le savez, appuie les réformes législatives et politiques sectorielles pour un meilleur accès aux services sociaux de base de tous les enfants congolais, ainsi que la production de données et l'analyse de la situation des femmes et des enfants. À propos du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et de la fièvre Ebola, il faut signaler que depuis le début de la crise de la maladie à virus Ebola en RDC, le PNUD s'investit activement auprès du gouvernement congolais dans la riposte en y apportant un appui logistique. La contribution du PNUD RDC à ce jour se présente comme suit. 2 stations VSAT complètes, 2 générateurs, 2 moteurs hors bord, 20 motos, 40 vélos, 20 gilets de sauvetage, 7500 litres de gasoil, 6200 litres d'essence et la mise à disposition d'un technicien pour l'installation des VSAT à Boende et Lokolia. Avec les 100 000 dollars alloués par le Bureau pour la prévention des crises et le relèvement, le BCPR, le PNUD RDC va continuer à apporter son appui à la riposte contre la fièvre Ebola dans les volets ci-dessous, le renforcement de la coordination au niveau communautaire, régional et national, le renforcement de capacités dans la collecte de l'information, l'entretien du VSAT, la prise en charge du technicien, la formation des relais communautaires et la sensibilisation dans les 23 villages affectés par l'épidémie, la sensibilisation dans les médias au niveau de la province affectée et la réalisation d'une analyse socio-économique pour faciliter la restauration du niveau de vie des communautés affectées. Alors je voudrais terminer en revenant sur une question qui a été posée par un journaliste de Goma à propos des îlots de stabilité. Je ne sais pas s'il est présent à Goma, mais quoi qu'il en soit, il écoutera sans doute Radio Okapi, donc il aura la réponse. Alors, à propos des îlots de stabilité, sachez tout d'abord que la MONUSCO est très impliquée dans ce projet, mais la question concernait plus précisément ce que fait le PNUD dans les îlots de stabilité. Alors, je vous précise que les îlots de stabilité sont des projets pilotes qui se situent dans des zones qui ont été très affectées par les conflits et par les exactions des forces négatives dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, par exemple. L'objectif est d'aider les populations à reprendre le cours de leur vie, d'appuyer la restauration de l'État et le développement local et participatif. Plus concrètement dans ce cadre, le PNUD est actif dans le Masisi, Rutshuru et Beni et a lancé avec l'UNFPA, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, l'UNESCO, le ministère du Genre et le ministère de la Justice, un vaste programme de 5 ans financé par le Canada à hauteur de 18 millions de dollars canadiens et qui est axé sur la lutte contre l'impunité, pour l'appui aux victimes de violences sexuelles et basées sur le genre et l'autonomisation des femmes à l'est de la RDC. Je termine en vous précisant qu'un communiqué de presse complet sur l'information de l'UNICEF vous attend à la fin de cette conférence de presse. Merci à tous.
Merci donc Geneviève Delenoy pour ces informations sur le volet développement de l'équipe pays de la RDC. Nous passons tout de suite la parole au colonel Félix Prosebas. Vous êtes fidèle au poste comme chaque mercredi et nous vous donnons la parole donc pour nous brosser le tableau de la situation sécuritaire en RDC.
Merci Charles et bonjour à tous. Donc nous ne dérogeons pas à la règle en commençant par l'ouest de la République démocratique du Congo où la situation a été jugée paisible durant la semaine écoulée, sauf à l'Équateur, précisément à Gemena, où le 16 septembre 2014, deux individus ont été tués, le marché et le commissariat de la police nationale congolaise, PNC, incendiés. En province orientale, la pression militaire est maintenue contre les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur LRA dans les districts de Haut et de Bawele. Cette situation, couplée aux campagnes de sensibilisation à la reddition volontaire, a provoqué la libération par ce groupe armé de deux femmes kidnappées à Brichali, ceci est à 45 km de Faradje et à Nguiliman en 2010 et 2014. Dans le district d'Ituri, la force de la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité congolaises conjuguent leurs efforts pour mettre un terme aux exactions perpétrées par les miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri FRPI contre les populations civiles vivant dans les localités situées au sud du territoire d'Irumu. Durant la semaine écoulée, et selon des rapports concordants, les éléments du FRPI ont tué deux individus à Douadso, kidnappé sept autres à Sissa et Ofaï et violé cinq femmes à Sissa et Douadso. Ces incidents ont provoqué des déplacements de populations civiles de Bukiringi vers Komanda. Komanda est à 75 km à l'ouest de Bouyan et à Luna qui est à 140 km à l'ouest de Bouyan. Les troupes d'intervention rapide des forces armées de la République démocratique du Congo et celles de la police nationale congolaise ont été promptement déployées dans la région de Sissa pour protéger les populations locales. Au nord Kivu, le climat sécuritaire, quoique volatile, demeure cependant sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. Durant la semaine écoulée et selon des sources de la police nationale congolaise, 25 éléments Maïmaï Kifouafoua, aux ordres du colonel Delphine Bayenda, se sont rendus au FRDC à Chambusha, situé à 15 km au nord de Hombo avec 7 armes AK-47 et des munitions. 7 autres éléments Maïmaï Rahia Mutombo, qui est 3 rebelles du groupe NDC Tcheka, ont fait reddition auprès des FRDC déployés à Pinga. Au sud du territoire de Lubero, suite à l'attaque du 16 septembre 2014 à Bunyatenge, qui est située à 54 km au nord-ouest de Luefu, menée par les Maïmaï Tchèques en Douma Défense du Congo, le bataillon uruguayen de la force de la MONUSCO a déployé le 17 septembre 2014 un poste opérationnel dans la région de Kanyabayonga en vue de protéger les populations locales mais aussi sécuriser le camp de transit hébergeant les ex-rebelles des FDLR ayant volontairement fait reddition ainsi que les membres de leurs familles. Du 17 septembre 2014 à ce jour, 56 éléments en provenance de différents groupes armés se sont rendus aux troupes onusiennes, congolaises et aux différents bureaux de la section DD3R déployés dans la province. Juste quelques chiffres pour illustrer cela. 9 appartenant aux forces démocratiques de libération du Rwanda, 7 du groupe Maïmaï Rahia Mutomboki, 25 du groupe Maïmaï Kifouafoua avec 7 armes AK-47, des munitions et un de l'ancien groupe ex-M23. Au sud Kivu, l'environnement sécuritaire dans la province reste sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises durant la semaine écoulée. C'est ainsi que du 15 au 18 septembre 2014, 46 éléments du groupe Maïmaï Rahia Mutomboki se sont rendus avec 5 armes AK-47, un fusil de calibre 12 et une grenade aux troupes des FRDC déployées au village Kambali, situé à 9 km au nord-est de Bunyakiri, dans le territoire de Kalehe. La situation sécuritaire, quant à elle, au Katanga, a été dominée par les succès militaires engrangés par les troupes congolaises contre les différents chefs rebelles opérant dans cette province. En effet, selon le commandement des FRDC basé à Manono, le 12 septembre 2014, des pêcheurs ont découvert au bord de la rivière Louvois, au sud-ouest du territoire de Manono, la dépouille mortelle du chef rebelle nommé Kassom Pombe du groupe Maïmaï Bakata Katanga, blessé au cours d'opérations menées par les FRDC le 28 août 2014 au village Mamba, situé à 192 km au sud-est de Manono. Le 19 septembre, de sources de l'armée congolaise basée à Pueto, le commandant second de Gédéon nommé Kafindo a été tué au début du mois de septembre au cours d'opérations offensives menées contre les éléments du groupe Maïmaï Bakata Katanga. Le secteur 2, quant à lui, est calme. Et pendant la semaine écoulée, nous avons mené 1621 patrouilles armées, dont 464 nocturnes, et fourni 47 escortes. Je vous remercie de votre attention.
Merci donc au colonel Félix Prosper Basse. Nous n'avons pas eu de présentation pour le volet humanitaire, mais nous avons un collègue dans la salle qui pourra éventuellement répondre à des questions.